30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors en ce samedi 21 février 2015, 30 minutes chrono va être consacré entièrement à un seul sport, le tambourin. Alors ce tambourin, on l'avait déjà reçu il y a quelques temps, ça remonte au mois de janvier 2014, hein, c'était un 11 janvier. J'avais eu le plaisir de recevoir pour inviter Christophe Garnier. Et bien alors voilà.
Bonjour,
alors,
bonsoir.
Bonsoir Christophe Garnier. Alors c'est le président du comité sport contre tambourin de l'Hérault.
C'est cela, oui.
Donc pour parler tambourin, je crois que j'ai trouvé la bonne personne.
Exactement.
Bon,
il y en a d'autres.
Oui, il y en a d'autres, mais enfin quand même, vous êtes quand même celui qui est à la tête du département pour s'occuper, un peu pour chapeauter, on va dire, tout l'ensemble des sports tambourins sur le département.
La promotion et l'organisation des compétitions sur le département.
Bon, bah alors donc on va parler évidemment de tout ce qui s'est passé, parce qu'en une année, il s'en est passé des choses pour ce sport qui prend beaucoup d'importance, surtout dans notre département, mais même bien au-delà de nos frontières.
Oui, au-delà des frontières du département et aussi au-delà des frontières de la France, parce qu'il y avait bien entendu historiquement les Italiens qui jouent depuis de nombreuses années, qui se disent aussi les inventeurs du sport, les détenteurs du sport. Mais maintenant, l'Allemagne, la Hongrie, l'Espagne, l'Angleterre s'y mettent aussi.
Et puis, on aura l'occasion de voir un peu tout ce qui s'est déroulé pendant cette année avec les championnats du monde. Enfin, on parlera de tout ça. Puis aussi, surtout, nos championnats où on peut voir à quel endroit les meilleurs clubs de l'Hérault. Eh bien, c'est dans quelques minutes. On va mettre une petite pause musicale. Et puis après, on se retrouve avec Christophe Garnier pour parler de tambourin. Alors, de retour dans nos studios en ce samedi soir, 19h30, 20h, c'est l'émission 30 minutes chrono. Je suis toujours avec Christophe Garnier.
Oui.
Alors, on parle de sport tambourin, parce qu'il faut mieux dire sport tambourin que tambourin. Hein.
C'est plus juste. Oui, c'est plus juste, et puis ça permet aussi aux gens qui connaissent pas ou qui connaissent peu de bien prendre conscience que ce n'est pas, comme on l'entend souvent, de la musique ou un instrument de musique, que c'est vraiment un sport. Et c'est vrai que l'instrument utilisé ressemble à un instrument de musique qui est un tambourin. Et par analogie, le terme tambourin est devenu le nom générique du sport.
Oui,
mais ça reste un sport.
C'est le sport tambourin. Alors, donc, Christophe Garnier est le président du comité sport tambourin de l'Hérault. Mm-hmm. C'est bien ça. Alors, on va faire un rapide, très rapide, historique, et puis un peu les règles. Et puis, il faut déjà dire aux auditeurs qu'il n'y a pas une sorte de tambourin. Il y a déjà trois sortes de tambourins. Parce que ça se pratique
Alors ça se pratique de façon classique et la façon originelle, on va dire, c'est en extérieur sur des terrains qui font 80 mètres de long par 20 mètres de large, avec des équipes de 5 joueurs contre 5 joueurs. Cette pratique-là est la pratique historique issue directement du jeu de longue pomme. Et ensuite, au fil des ans et surtout à la fin du siècle dernier, donc dans les années 80 à 1980, une version en salle est apparue qui permet aux joueurs de jouer
toute l'année.
Toute l'année durant la période hivernale. Et plus récemment encore, au début des années 2000, une version appelée biche tambourin qui permet de jouer sur la plage est apparue aussi avec des règles spécifiques pour chacune de ces disciplines. Mais l'élément central, c'est l'utilisation d'un tambourin pour renvoyer la balle dans le camp adverse.
Alors, en gros, donc, vous avez dit qu'il y avait 5 joueurs de chaque côté. Il y a aussi une particularité, une spécificité, c'est le service. C'était pas le même tambourin, je crois, pour servir.
Alors ça, c'est une particularité qui n'est pas obligatoire.
D'accord.
On sert alors soit avec un instrument, soit on peut servir au tambourin, donc avec l'instrument qui sert à jouer, comme au tennis, on sert avec une raquette. Soit on sert avec un battoir. Donc ça, c'est un instrument qui est spécifique à la version française du jeu. Donc,
et puis dehors, je suppose. Hein.
Et à la version extérieure aussi. Le battoir est interdit dans les versions sur plage et les versions en salle, parce que les terrains de plage et de salle sont beaucoup plus courts. D'ailleurs, sur la plage et en salle, on joue à 3 contre 3 et non pas à 5 contre 5. Et donc le battoir permet d'avoir de la vélocité, donner de la vélocité à la balle, de donner de l'effet aussi. Les Italiens ont aussi un instrument qui leur sert à servir, qui est différent. Ils appellent ça, nous, on appelle ça une mandoline. C'est un tambourin oblong, un petit peu ovale, qui surtout permet, au-delà de la vitesse, permet surtout de donner de l'effet à la balle. Et la balle va avoir des rebonds bien particuliers quand elle est servie avec une fameuse mandoline. Et donc ça, c'est les deux instruments un petit peu typiques des deux côtés des Alpes qui permettent de servir. Mais comme je le disais, on peut servir avec un tambourin. Aussi.
Et pour donner une idée aux auditeurs qui connaissent mal ou qui connaissent peu ce sport, qui n'ont jamais vu, à quelle vitesse ça arrive la balle à peu près?
La balle peut dépasser facilement les 200 km/h.
C'est comme au tennis, quoi. C'est comme un service.
Voilà, c'est comme un service professionnel au tennis. Oui. Seulement, durant la phase de match aussi, la phase d'engagement, la balle aussi voyage à ces vitesses-là. Il faut bien imaginer qu'en extérieur, on est sur un terrain qui fait 80 mètres de long. Donc la balle parcourt à peu près 60 à 70 mètres lorsqu'elle est frappée par un tambourin. Donc il faut bien imaginer que pour qu'elle puisse parcourir cette distance-là, il faut qu'elle démarre très vite et qu'elle ait vraiment de l'inertie au départ.
Et puis alors donc, vu la vitesse et vu la force de frappe, je suppose qu'il doit y avoir des vibrations. Donc peut-être que le tambourin est un peu particulièrement adapté aux vibrations de cette balle.
Dans tous les cas, le tambourin est vraiment un instrument adapté. On n'est pas sur un instrument de musique qui éventuellement servirait, voilà,
avec des petites clochettes sur le côté,
voilà, qui éventuellement servirait à jouer. Non, on est vraiment sur un instrument qui est aussi adapté au jeu que peut l'être une raquette de tennis ou une raquette de squash ou une raquette de badminton ou de tennis
la
de table.
La tension, je pense.
Voilà. La matière dans laquelle le cerceau est fabriqué, donc c'est un cercle de matière plastique, son poids, la matière dans laquelle elle est faite, la tension de la toile, qui est aussi une toile synthétique avec laquelle on peut exactement mesurer la pression au moment de la fabrication, et l'ergonomie aussi du tambourin a été étudiée de façon à avoir une bonne prise en main. Et tout ça fait qu'on a vraiment affaire à un instrument qui est à la fois spécifique au jeu, mais aussi spécifique aux joueurs qui pratiquent. Et en fonction de la pratique, le poids, la tension, comme dans tous les
sports. Et de l'âge, je suppose aussi, en fonction des âges.
En fonction des âges aussi, voilà, il y a deux tailles de tambourin. L'une qui est, donc on va revenir un petit peu à la problématique de la vibration. C'est clair qu'en dessous de 12 ans, on pratique avec des tambourins qui ont des tailles plus petites, des diamètres plus petits, et qui permettent aux enfants de ne pas s'abîmer le poignet, de ne pas avoir des problèmes de développement du poignet au moment, et du bras au moment de leur croissance.
Un peu comme le tennis, là aussi, avec les tennis elbow, les choses comme
exactement,
ça.
Exactement, au tennis, même chose, il y a des raquettes adaptées au jeu des plus petits avec des manches plus courtes. Et donc, ça permet justement aux plus jeunes, dès l'âge de 5-6 ans, maintenant on a des enfants qui démarrent à l'âge de 5-6 ans la pratique du tambourin, et ils peuvent facilement accéder à la pratique d'une part parce que l'instrument est adapté, et d'autre part ils peuvent continuer à pratiquer parce que l'instrument aussi est fait pour leur taille et pour leur puissance de jeu. À l'inverse, les adultes jouent avec des tambourins qui sont d'un diamètre plus grand et d'une puissance aussi plus importante.
Comme au tennis, quand on met une raquette qui est plus tendue, hein, les cordes sont plus tendues. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que des... Alors, on apprend des termes, bien sûr. Les cordiers, le tiers, là, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors là, on rentre un petit peu dans la stratégie ou la tactique du jeu.
Oui.
Un petit peu comme dans tous les sports, il y a des postes spécifiques. Comme au football, vous auriez des gardiens de but,
des attaquants,
des milieux de terrain. Au handball, vous avez le pivot, le fameux demi-centre, etc.
Les ailiers,
etc. Au tambourin, il y a donc la règle tambourin n'impose pas une disposition sur le terrain, comme dans tous les autres sports d'équipe. Il n'y a pas une disposition obligatoire. Par contre, la tactique a fait qu'au fil des ans, une disposition particulière s'est mise en place, où l'on retrouve donc sur les 5 joueurs. Là, on parle de la version en extérieur.
Sur les 5
joueurs, vous avez 2 joueurs qui jouent donc au fond du terrain, on va dire le plus éloigné les uns des autres.
En fond de court,
qui renvoie les balles donc dans le camp adverse le plus loin possible. C'est un petit peu, pour comparer ça avec le football que beaucoup de gens connaissent, ce sont un petit peu les défenseurs centraux du football. Foot, oui. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de renvoyer la balle le plus loin possible dans le camp adverse, de maintenir l'adversaire
en pression, sous pression.
Ensuite, vous avez le joueur qui joue au milieu du terrain, qu'on appelle le tiers.
Alors, le tiers, voilà.
Pourquoi le tiers ? Parce qu'il joue plutôt, il a plutôt tendance à jouer à 2/3, 1/3 de la distance dans le terrain. Lui, c'est le numéro 10. Voilà, c'est vraiment lui qui fait le jeu, le distributeur. C'est lui qui va recevoir des balles jouées courtes par l'adversaire. Et il aura là, c'est un jeu plus raffiné ou justement plus violent, ça dépend du tiers. Il aura le choix de rejouer la balle très en profondeur dans le terrain adverse, d'essayer de la placer, de la jouer plus ou moins forte de façon à influencer vraiment l'avancée du jeu.
Ou de la placer un peu courte peut-être.
Pour
déstabiliser les autres.
Exactement, pour déstabiliser l'adversaire, de jouer, comme on dit, dans les trous, dans les espaces où les adversaires ne sont pas en position de pouvoir recevoir et renvoyer la balle.
Et puis devant ?
Et devant, donc vous avez les cordiers. Donc les cordiers, ils ont un petit peu ce rôle double, on dirait. Ce seront à la fois les gardiens de but et les attaquants d'une équipe. Et ils ont très peu de balles, comme les gardiens de but et les attaquants dans une équipe. Par contre, ils ont un rôle très, très important lorsque les matchs sont très serrés. Peu de balles, mais ils ont obligation de capter les balles qui passent à leur hauteur.
Ils peuvent reprendre de volée ?
On peut reprendre de volée. Tous les joueurs peuvent reprendre la balle de volée. On a droit à un rebond dans son camp, mais on peut reprendre de volée.
Un peu comme au tennis, là.
On est sur un rebond qui ressemble à ça.
Alors là, on a vu donc ce qui se passait à l'extérieur. Donc à l'intérieur, vous avez dit 3 joueurs, et puis c'est donc un terrain réduit. Et là, ça va vite, je suppose, encore plus vite.
Ça va encore plus vite parce que les joueurs sont à moins de 20 mètres les uns des autres. Et on a donc ces joueurs-là sont. Il y a une disposition qui s'est mise en place au fil du temps. Alors l'expérience est moins longue dans le tambourin. En salle, parce qu'on est sur l'expérience d'une trentaine d'années maintenant. Ça a démarré au milieu des années 80, d'accord, début des années 90. Et donc, par contre, la position qui s'est mise en place, c'est sur les 3 joueurs, il y a un joueur qui est central, donc qui joue en retrait par rapport aux autres, qui s'occupe du service et de gérer toute la partie, toutes les balles qui arrivent vers le centre du terrain. Et ensuite, il joue avec 2 ailiers, un à sa droite, un à sa gauche, qui joue plus avancé que lui et qui, eux, viennent bien un peu en forme de triangle, qui viennent capter les balles les plus proches et les balles aussi qui passent sur les côtés du terrain.
Et le dernier sport, le biche volé, ça ressemble à ça, je suppose.
Alors, pas le biche volé, le biche tambourin.
Biche tambourin, bien sûr.
Et dans sa tactique, le biche tambourin est assez proche plus proche du tambourin en salle que du tambourin en extérieur. Voilà. Parce que justement, on joue à 3 contre 3. Le terrain est à peu près de la même taille. C'est encore plus dynamique parce qu'on a droit au rebond au biche tambourin. Mais il vaut mieux éviter parce qu'un rebond sur le sable, mais de fait, à vrai dire, des fois c'est la part de chance de ce sport-là, de cette version-là. On peut, après un rebond, reprendre la balle avec un petit peu de chance, ou on ne peut pas. Donc c'est clair que les joueurs sont poussés à jouer
de voler et à
se jeter, à avoir des actions assez spectaculaires sur le biche tambourin.
Très bien. Si vous voulez bien, on va faire une petite pause et puis on revient, puis on va reparler de ce sport. Donc vous êtes vraiment un passionné. Je crois qu'on a trouvé la personne pour parler du tambourin et on va revenir, on va faire un petit tour de l'historique et puis surtout on va voir ce qui se passe maintenant, de nos jours.
Well, are you with me?
Ben voilà, on est toujours avec Christophe Garnier. On parle toujours de ce qu'on appelle, et je fais attention de ne pas me tromper, le jeu de balle au tambourin.
Oui, jeu de balle au tambourin, voilà. Sport tambourin, tambourin tout court.
Voilà, alors là, on va revenir un peu plus là, localement, au sens large du terme. On peut s'étendre jusqu'à Languedoc-Roussillon. Hein. Mais dans l'Hérault, c'est vraiment très important ce sport. Ce n'est pas un sport anecdotique. Hein. Il y a beaucoup de licenciés, il y a beaucoup de villages ou de villes qui pratiquent ce sport avec passion.
Oui, c'est tout un peu important que le sport est né ici. Il est né donc à Metz. On avait, c'est comme un peu la pelote basque au Pays Basque. Il y a vraiment une origine qui est locale, c'est-à-dire une adaptation des règles du jeu de longue pomme à une pratique locale. Du côté du Pays Basque, bien sûr, ils savaient tresser le dosier, donc ils ont fait des schisteras pour pouvoir jouer à la fameuse pelote basque. Oui. Et du côté de Metz, donc du côté de l'Hérault, par ici, on savait cintrer du bois pour faire des tonneaux et tendre de la peau dessus. Et c'est comme ça que les tambourins sont nés et que la pratique s'est développée.
Au début, c'était un ballon. C'était pas une balle. Hein.
Au début, c'était un ballon. On jouait avec un brassard en bois. Il y avait pas de notion de toile tendue, etc. Et donc, au fur et à mesure, la technologie, même de l'époque, a permis justement de faire des renvois beaucoup plus longs, beaucoup plus puissants et de rendre le jeu beaucoup plus intéressant. Et c'est cette version-là qui s'est imposée et qu'on appelle désormais le sport tambourin.
Alors dans les roues, pour avoir une idée, à peu près combien de licenciés ?
On est sur 1750 licenciés à ce moment de l'histoire, sachant que là on est en fin de saison, hivernale, de saison en salle, qui rassemble un peu moins de licenciés que la saison estivale.
Estivale, bien sûr.
Et ensuite, la saison estivale, les gens sont en train de s'inscrire, de prendre leur licence pour aller la saison estivale, sachant qu'elle démarre début avril. Donc on est un petit peu entre deux, mais déjà on a un très bon résultat et c'est en augmentation par rapport à la même date l'année dernière.
Et pour s'y inscrire, le plus simple, on vous contacte, vous, puis après, vous voyez en fonction de quel endroit il contacte quel club, c'est ça ?
Exactement. Alors, plusieurs solutions. Soit vous avez un club que vous connaissez localement, vous le retrouvez souvent dans les pages du Midi Libre. Les clubs communiquent, font passer des communiqués de presse au Midi Libre, qui se retrouvent dans les articles.
D'accord.
C'est une première solution. Les solutions suivantes aussi sont tout à fait valables. Par exemple, contacter donc le comité de tambourin au travers de son site sport-tambourin-cd34. Ce site permet justement d'accéder aux contacts, etc. et de trouver le club le plus proche de ses soins.
Le plus proche de vous. Et puis pour les jeunes là, qui ne connaissent pas très bien, ils peuvent aller voir peut-être un match d'abord pour voir comment ça se présente, etc.
Alors,
si ça les intéresse.
Tout à fait. On peut voir un match donc, sur les lieux. Les matchs sont annoncés souvent sur le site du comité. On retrouve les calendriers, les rencontres dans les médias. On retrouve aussi, pour ceux qui le souhaitent, des vidéos sur YouTube. Depuis récemment, on a mis des vidéos sur YouTube où on peut voir donc, les gens qui jouent du tambourin vraiment en action au travers de différentes petites scénettes et vidéos de quelques minutes.
C'est là qu'on voit à quel point ce sport est rapide. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important qui est de votre rôle aussi. C'est un rôle d'éducateur. Donc, vous avez des animations dans les écoles.
Nous avons des animations. Le comité a deux animateurs qui travaillent donc, à temps plein tout au long de l'année. Avec une convention avec l'Académie de Montpellier,
oui,
l'Académie de l'Éducation nationale, et donc ils interviennent dans les écoles pendant le temps scolaire et ils proposent un cycle tambourin qui fait passer les élèves de débutants à un certain niveau de jeu qui permet ensuite d'organiser des rencontres interclasses, interécoles lors de la période du printemps et qui permet de faire connaître le tambourin, qui a amené bien sûr beaucoup de jeunes et de parents à connaître le tambourin et aussi beaucoup de jeunes à pratiquer le tambourin. On a désormais des jeunes qui ont découvert le tambourin à l'école et qui viennent jouer chez nous. Et nos animateurs font des interventions ponctuelles ou alors régulières aussi dans les villages durant les temps d'animation périscolaire ou lors des manifestations festives des villages.
Et puis pendant la saison estivale, si on est montpelliérain, on peut aller le voir, ça je crois. Il y a un endroit à Montpellier, on le voit très bien, c'est au parc...
Au parc Montcalm.
Voilà, parc Montcalm, où on peut aller voir à quoi ça ressemble, tout ça. Les grands noms du tambourin de l'Hérault, on peut dire que c'est Cournantéral, Gignac, Vendémian et d'autres.
Alors, ces dernières années, c'était au niveau de la version en extérieur, c'est Cazul Dero qui a mené la danse, qui a été champion à plusieurs reprises.
Il y a Pignan aussi.
Pignan, ça date un petit peu plus. Pignan a eu son heure de gloire quelques années auparavant. C'est vrai que pour l'instant, c'est Cazul Dero, Cournantéral que l'on retrouve en finale de championnat extérieur. Après, il y a des clubs qui sont des gros fournisseurs de joueurs aussi pour les équipes de France. Je pense à Cournonsec, Notre-Dame-de-Londres.
Voilà. Donc c'est tout le département de l'Hérault qui est concerné, mais un peu le cœur de l'Hérault.
Le cœur et l'est du département. Ouais. On a à peu près comme tous les sports d'ailleurs, même les autres sports collectifs qui sont souvent plus connus et qui ont plus de reconnaissance au niveau national voire international, ont une difficulté dans l'Hérault en général à avoir accès à l'ouest du département. C'est une partie du département où de par sa géographie, de par sa ruralité, et il est plus difficile de monter et de maintenir en vie des clubs sportifs.
Et puis il faut savoir aussi que vous recevez aussi le Barcelone. Barcelone maintenant est intégré dans ce championnat, hein, je crois, à l'été.
Alors, Barcelone est intégré dans le championnat de l'Hérault parce que Barcelone, ouais, donc la Catalogne, a découvert le sport tambourin au travers de la salle d'ailleurs. C'était une des premières. Alors leur accès au tambourin s'est fait par la version
par la salle.
Ils ont ensuite participé à des tournois dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône aussi, où il y a des clubs de tambourin.
Oui.
Et ont décidé d'intégrer le championnat de l'Hérault avec une équipe donc, de Barcelone qui vient défier les équipes héraultaises avec des bons résultats. L'année dernière, Barcelone était rentrée au plus bas niveau en un championnat départemental 3 de l'Hérault et a fini parmi les trois meilleures équipes et a été qualifiée pour monter en championnat Hérault 2. Donc on retrouvera Barcelone
en 2.
En deux, un meilleur niveau cette année que l'année dernière.
Eh ben, on va faire encore une petite pause et puis après on se retrouve pour voir les derniers événements qui vont arriver très bientôt. Toujours dans les studios de Divergence, toujours avec Christophe Garnier. Et on parle toujours du sport tambourin. Mais alors, avec vous, vous êtes tellement passionné et passionnant qu'on ne voit pas le temps passer. Alors, évidemment, il nous reste presque plus de temps dans cette émission qui dure 30 minutes, qui vous était consacrée entièrement. Eh bien, on n'a pas vu le temps passer. J'espère que pour les auditeurs, c'était pareil. Alors, on va parler maintenant des événements. Alors, il y a un événement. Là, on est samedi, on est le 21 février. et on est dans nos studios de Divergence à 19h30. Et ben demain, je crois qu'il y a un événement très important pour le sport tambourin.
Alors très important, on est sur la fin des saisons en salle, parce que la saison en extérieur démarre début avril. Et donc nous avons les finales de championnat Hero 2, Hero 3 masculin et de finale féminine aussi Hero 2. Donc c'est l'occasion pour les équipes qui ont été les meilleures, les mieux classées lors de ces championnats, de se rencontrer pour déterminer qui sera le champion
d'Hero. Et ça se déroule à quel endroit ?
Ce sera au Palais des Sports d'Agde.
Alors Palais des Sports d'Agde, si vous ne connaissez pas le tambourin, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, là ça vaut la peine, parce que là vous avez affaire déjà à du très haut niveau.
Il y a du très bon niveau, surtout donc, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les équipes qui évoluent en Hero 2 et Hero 3, il y a du bon niveau, sachant qu'il y a quand même trois niveaux de jeu dans l'Hero, donc il y a les championnats sont relevés. Et en plus, vous aurez la chance de voir entre les finales, les rencontres de la phase finale du championnat de l'Hero, du championnat du Languedoc Excellence, qui oppose les cadets. Et les cadets, c'est l'avenir du tambourin. C'est vraiment très impressionnant de voir jouer ces jeunes qui ont bien sûr entre 16 et 18 ans, avec une véritable connaissance et un savoir-faire dans le tambourin très impressionnante.
Et pour les auditeurs qui ne le savent pas, il y a aussi des championnats du monde. Alors l'an dernier, notre équipe française, de femmes comme d'hommes, les féminines et les masculins, sont arrivés en finale.
Oui, et ils sont arrivés en finale et ça a été malheureusement deux finales perdues face aux équipes italiennes. On est encore sur des finales qui opposent la France à l'Italie.
Et l'Italie s'est encore plus développée ou...
Sur la salle, non. Disons que sur la salle, les Italiens, sur cette Coupe du Monde-là, ont fait un gros travail pour vraiment venir et remporter.
Voilà. Ils ont cherché l'élite. Hein.
Parce qu'à l'inverse, c'est vrai qu'on est quand même sur la rencontre interclub, les Français sont champions d'Europe chez les garçons. Donc il est possible de battre les Italiens. Florent Sacq l'a démontré lors de les deux dernières finales. Ils ont battu les meilleurs Italiens, les champions d'Italie. Et Poussin l'a fait l'année précédente. Par contre, Poussin a chuté, et c'est pour dire que l'évolution du tambourin est en marche. Poussin a chuté contre Budapest l'année dernière.
J'allais vous le dire, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas que des Italiens et des Français. En demi-finale, c'était les Brésiliens que les Français ont battus.
Alors voilà, chez les clubs, c'est la Hongrie, donc c'est Budapest qui avait battu Poussin pour la Coupe d'Europe des clubs. Pour la Coupe du Monde, donc qui a la demi-finale opposé le Brésil à la France. Et la France est passée en finale en battant
13-9.
Le Brésil sur le score de 13-9, ce qui est un score très serré. Et on voyait le moment où, pour la première fois dans l'histoire du tambourin en salle, il n'y aurait pas eu une finale entre les nations françaises et italiennes.
Et bien écoutez, ce qu'on souhaite, c'est peut-être, après tout, sait-on jamais, dans quelques temps, peut-être les Jeux Olympiques intégreront le tambourin.
On peut que le souhaiter.
Pourquoi pas ?
Il va falloir beaucoup travailler pour ça.
Le beach volley, par exemple. Tout à l'heure, j'ai fait un lapsus en disant beach volley en voulant dire tambourin, beach tambourin. Mais le beach volley est devenu un sport olympique.
Tout à fait, voilà, c'est le taekwondo, aussi un sport martial traditionnel coréen qui est devenu un sport olympique au détriment du karaté.
Le rugby à 7 aussi, qui va devenir un sport. Donc bon, bah écoutez, peut-être pas tout de suite encore, il faut se développer, il faut qu'il y ait de plus en plus de nations qui y participent, mais on peut regarder vers là, et on peut regarder vers donc des championnats de plus en plus, avec de plus en plus de pays.
Voilà, c'est un beau défi à relever. On sait qu'il y a 15 nations qui étaient présentes à la Coupe du Monde.
C'est déjà pas mal.
En salle l'année dernière. Il y avait 5 nations présentes lors de la Coupe du Monde en extérieur, dont le Brésil, donc j'ai cité, le Brésil, la Hongrie. Les Allemands aussi s'y mettent. Donc on devrait avoir de plus en plus de Coupes du Monde et de championnats étoffés avec différentes nations qui jouent.
Bon, ben écoutez, on arrive presque à la fin de cette émission. Il nous reste quelques secondes pour parler. Alors, merci d'être venu d'abord. On est toujours ravis de recevoir.
Merci de m'avoir reçu.
Oui, mais c'est toujours avec un grand plaisir qu'on reçoit des sportifs de notre agglomération. On ne dit plus une agglomération, on dit métropole.
Métropole, oui.
Notre métropole qui viennent nous rendre visite et puis qui parlent d'un sport qui n'est pas forcément trop connu de tout le monde, mais qui vaut la peine d'être vu. Alors, ceux qui ne connaissent pas le tambourin, allez-y, allez voir, parce que c'est tellement assez impressionnant. Le premier match de tambourin qu'on voit, pour ceux qui est novice, pour celui qui n'est pas originaire de l'Hérault, qui n'a pas l'habitude de voir ça, c'est très impressionnant parce qu'on entend d'abord le bruit. puis après on va voir les joueurs.
Je ne peux que confirmer la bonne impression que le tambourin laisse, bien entendu. Voilà.
Bah écoutez, je voudrais simplement citer mon invité de la semaine prochaine et puis je vais vous remercier encore. Alors, la semaine prochaine, je vais recevoir Joachim Lopez de Lima. C'est un triathlète latois qui donc, est d'ici. Mais alors, lui, c'est un triathlète particulier. Vous allez voir, il va se lancer dans un grand défi. Ça sera au mois de juin, il nous en parlera. C'est le Celtman Extreme Scottish Triathlon. Il va nous parler, c'est quelque chose. Donc, la semaine prochaine, on reçoit encore un grand sportif de l'Hérault. Merci, Christophe.
Ben merci à vous et merci à Divergence FM.
L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.